France Culture.
Eh bien bonjour Pascaline Le Pelletier.
Bonjour.
Nous voilà rendus au dernier épisode. Nous ne l'avons pas encore réellement fait en fait, à votre façon, parler du vin aujourd'hui et peut-être penser le vin de demain. C'est le sous-titre d'un livre monumental, un peu dans tous les sens du terme d'ailleurs, que vous avez signé en 2022 chez Hachette, qui s'appelle « Mille vignes » et dans lequel, en trois grosses parties, vous lisez la vigne, vous lisez les paysages et vous lisez le vin. Parce que, au fond, vous pensez le vin, et vous nous direz si vous pensez les autres breuvages de la même façon, mais vous pensez le vin comme un bien qui est un bien culturel, un bien politique, même presque civilisationnel. J'aimerais bien que vous nous expliquiez en quoi, pour vous, penser le vin, c'est une façon d'habiter le monde.
On l'a noté, j'ai eu la chance de grandir dans une région viticole avec un très fort passé historique et en même temps une région viticole qui a été assez rapidement à la pointe de l'évolution de la réflexion sur la viticulture grâce à beaucoup de raisons. Sur cette réflexion de comment vraiment faire pousser la vigne. Et donc, lorsque je me suis intéressée, que j'ai commencé à goûter les vins, j'ai tout de suite été imprégnée par cette idée que ces paysages viticoles étaient des paysages agricoles, mais qu'ils étaient ce qu'ils étaient parce qu'il y avait effectivement une géographie, une géologie, un climat, mais aussi une histoire, mais aussi des raisons économiques qui expliquaient en fait l'état du vignoble dans lequel je le découvrais à mes débuts de sommelière. Et cela, je l'ai ressenti ici. Alors, c'est resté en filigrane parce que il a fallu que des gens m'expliquent, que je lise des livres sur l'histoire du vignoble, mais ça a toujours été un petit peu en germe et ça a toujours imprégné mes explorations à partir de ce moment-là. Donc, j'ai commencé à connaître le vin, après passer des diplômes, j'ai appris des choses pour ces diplômes. Donc j'ai appris les appellations, j'ai appris les cépages, j'ai appris les règles de vinification. Et plus ça allait, plus il fallait que j'en apprenne. Je devais connaître beaucoup de choses pour mes concours. Puis quand je suis arrivée à New York, il a fallu que je découvre les vins du monde. Donc j'ai appris une certaine façon d'apprendre le vin. Mais toujours en filigrane, je continuais de rencontrer des hommes et des femmes, on me racontait des histoires, je lisais des livres un petit peu plus larges sur les pays qui m'intéressaient, sur les régions viticoles qui m'intéressaient, qui mettaient la politique, l'économie en perspective. Et en fait, il est arrivé un moment où j'ai dû enseigner. Je voulais enseigner, ma mère a été enseignante, j'ai passé des diplômes et j'ai pu enseigner. Et je me suis rendu compte que j'avais fait une démarche personnelle où j'avais des faits et je commençais à expliquer le pourquoi. Mes étudiants ne savaient pas comment faire. Et que les diplômes que je devais préparer, auxquels je devais préparer mes étudiants, étaient principalement des diplômes de connaissances en temps actuel, de beaucoup de données, mais sans l'explication de l'origine.
Sans la profondeur historique.
Sans la profondeur historique. Et cela m'a amené en fait à vouloir creuser, à me dire voilà, mais je comprends ma région de la Loire, je suis devenue une spécialiste de la Loire, une amoureuse du Chenin, vraiment une militante de la Loire aux États-Unis parce que le Chenin n'était pas très connu, la région où c'est le Chenin est un grand cépage de la région angevine. Les gens ne comprenaient pas mon cépage. Pourquoi est-ce qu'ils ne comprennent pas mon cépage? Ben en fait, c'est parce qu'il y a eu des développements historiques, que les vins à l'heure actuelle qu'on consomme ne sont pas forcément les vins historiques de la région. Et en fait, j'ai fait une recherche un peu généalogique des vins de ma région pour comprendre pourquoi ils n'étaient pas connus sur le marché dans lequel je travaillais. Je me suis dit, si c'est comme ça pour ma région, est-ce que ce n'est pas comme ça pour d'autres régions? Et j'ai commencé à regarder d'autres régions. Et je me suis rendu compte à quel point l'économie actuelle du vin était due effectivement à des mouvements sociopolitiques, religieux, qui étaient un peu à l'encontre du discours actuel, où on nous dit, hein, c'est pas, il y a des terroirs magnifiés, il y a des endroits qui font des meilleurs vins que d'autres, parce que géologiquement, géographiquement, biologiquement, la terre, le climat font que. Et donc, qui ne font absolument pas part à la part anthropologique. Évidemment, ça m'a fait réfléchir sur des grands textes où le vin est présent, donc évidemment la dimension civilisationnelle du vin dans nombre de région occidentale a été traité par des historiens, par des spécialistes de la question dans des livres un petit peu théoriques sur la place du vin, notamment l'histoire des religions. Et ben, j'ai juste voulu faire le lien entre ces grandes théories civilisationnelles du vin où effectivement le vin a une grande place, et je vous recommande de lire les travaux de Jean-Robert Pitt, géographe, et ma pratique à moi. Et là, je me suis vraiment rendu compte que c'était des questions qui en fait avaient été traitées extrêmement bien au niveau universitaire, et notamment universitaire français, mais qui étaient totalement déconnectées de la réalité praticienne, de la formation de sommellerie, ou même plus largement de l'amateur de vin, ou même de certains professionnels du vin. Et donc j'ai voulu un petit peu lier tous ces travaux qui étaient présents et en faire quelque chose, et en faire un travail de mise en perspective de cette boisson si particulière. Et je suis, voilà, plein de travaux l'ont dit avant moi, mais comment le relier avec l'actualité actuelle du vin, peut-être beaucoup plus complexe que ce que l'on dit voilà, dans la presse et dans plein d'autres endroits, enfin, dans beaucoup d'enseignements. Donc oui, il y a une version civilisationnelle du vin profonde, parce que c'est un type d'agriculture qui a été crucial pour un nombre de pays, qui a eu des enjeux politiques, sociaux, de santé, et qui a façonné des paysages dont on voit les résultats actuels encore aujourd'hui, et qui a façonné des modes de consommation au sens large, de ritualisation, de rapprochement des sociétés, et qui a un impact sur beaucoup plus de choses que simplement une petite économie vitivinicole.
Vous diriez qu'aujourd'hui, le monde du vin, c'est un secteur en pleine mutation, en particulier en raison du défi climatique ?
Alors, effectivement, alors le monde du vin, en fait, nous le savons bien grâce aux historiens de la vigne et du vin, hein, il y a eu des crises vitivinicoles historiques au cours des siècles. Au début du XXe siècle, il y a eu des crises extrêmement importantes, notamment en France. Alors, elles étaient plutôt liées à des conditions politiques et économiques. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, il y a une évolution écologique et climatique qui se fait ressentir de manière extrêmement vive, extrêmement rapide. Il y a eu déjà des crises écologiques qui ont affecté le profil mondial de la production de vin, enfin, surtout le profil européen. On a eu des petits âges glaciaires qui ont affecté la production au XVIIIe siècle. Avant ça, on a eu des périodes d'embellissement, ce qui a expliqué qu'il y a eu de la vigne, par exemple, au Moyen-Âge jusqu'en Angleterre. C'est parce qu'à un moment donné, il a fait plus chaud, puis il a fait beaucoup plus froid. Aujourd'hui, on est dans un rythme climatique frénétique qui, effectivement, est beaucoup plus accéléré que les phases précédentes. Et le monde du vin, c'est un peu... on a cette expression en anglais, c'est... Le canari dans la mine de charbon, en fait. C'est une agriculture tellement spécifique, spécialisée aussi, où beaucoup de gens s'y intéressent, où il y a beaucoup de scientifiques qui font beaucoup de travaux, et il y a beaucoup d'analyses. Les perspectives qu'on voit dans le monde du vin et ce qui est en train de se passer avec la vigne sont des signaux d'alerte vraiment très forts sur des questions agricoles et écologiques beaucoup plus larges. Et effectivement, ce qu'on voit aujourd'hui avec la production agricole mondiale et la production viticole mondiale sont des signaux d'alerte très forts.
Vous, vous nourrissez une passion pour les vins bio, biodynamiques, nature. Est-ce que, enfin, les vins vivants, je pense qu'on peut les regrouper sous cette appellation, les vins vivants. Deux questions. Un, j'aimerais bien que vous nous expliquiez ce que vous appelez par vin vivant, ou qu'est-ce qu'on appelle vin bio, vin biodynamique, vin nature en particulier. Et deux, est-ce que c'est justement par souci politique de votre part? Ou par goût?
Alors, c'est arrivé par goût et c'est devenu effectivement, pour moi, un enjeu politique, au sens où je suis citoyenne d'un monde, je suis citoyenne d'une économie, je suis citoyenne d'une nation, avec cette idée que nous avons quelque chose, nous devons à nos enfants la préservation de ce dont nous avons eu la chance de pouvoir profiter jusqu'à présent. Donc, c'est par goût au départ. C'est-à-dire que lorsque j'ai vraiment commencé à m'intéresser au vin, dans ma région viticole d'origine, j'ai pu goûter très rapidement un nombre de productions très variées de vins qui venaient de viticulture, qu'on va dire conventionnelle, avec du tout chimique, que ce soit au niveau des pesticides, des herbicides. La vigne est une plante malade. Il y a beaucoup de maladies de la vigne aujourd'hui les maladies de la vigne aujourd'hui demandent à être traitées. C'est pas une plante qui peut vraiment aisément être cultivée sans cela. Et au niveau du vin, l'évolution des produits œnologiques, qui sont vraiment un apport en fait de la connaissance agroalimentaire et des processus agroalimentaires. Donc j'ai pu goûter des vins qui étaient faits avec vraiment des plantes traitées chimiquement, avec des engrais de synthèse, et des vins qui étaient faits à partir d'une viticulture où, au contraire, il n'y avait aucune molécule chimique, il y avait un travail différent d'approche de chimie de synthèse, pardon, il y avait un travail différent d'approche de la vigne et de compréhension de la plante. Et j'ai pu goûter le résultat, j'ai pu goûter des vins qui étaient vraiment très travaillés œnologiquement, donc voilà, avec des corrections qui permettaient de faire quelque chose de stabilisé, et des vins qui étaient laissés, faits, qui étaient conduits, mais il n'y avait aucun intrant, et c'était juste vraiment du jus de raisin fermenté. Et c'est là qu'il faut expliquer quand même qu'on croit que le vin, c'est que du jus de raisin fermenté, mais en fait, ça peut être beaucoup plus que ça. Il y a beaucoup d'intrants qui sont autorisés pour stabiliser. Alors, je vais revenir vraiment rapidement là-dessus, parce qu'il faut penser... c'est quoi le vin ? Le vin, c'est un processus naturel de fermentation que l'on a réussi à stabiliser dans une espèce, j'appelle ça un peu de grâce esthétique, pour notre plaisir, qui puisse durer le plus longtemps possible. Parce que c'est quoi le vin ? C'est un jus de raisin qui est transformé par des levures et des bactéries en un composé avec de l'alcool, de l'eau, des composés chimiques. Mais si on le laisse faire, hein, ça va devenir du vinaigre ou ça va vraiment se décomposer en de l'eau, des sédiments. Et donc le vin, en fait, c'est un espace intermédiaire extrêmement difficile à stabiliser parce que c'est un processus naturel de décomposition et on a juste essayé de le stabiliser le plus longtemps possible. Au départ, c'était naturel, donc il y a eu plein de choses qui ont été faites au cours des millénaires pour faire ça avec parfois des herbes, des plantes, de l'eau de mer. Voilà. Et avec l'évolution de la connaissance chimique, on a réussi à trouver des stabilisants qui ont permis de garder le vin. Et donc toute la question de ces vins aujourd'hui, c'est deux choses. C'est quel raisin transforme-t-on ? Donc comment est-ce que ce raisin a été cultivé ? Et là, je pense qu'on peut tous faire le rapprochement assez simplement avec la tomate. Quand vous goûtez une tomate d'hiver, de serre, qui a été faite vraiment avec une agriculture conventionnelle, bah, c'est quelque chose qui n'a pas forcément beaucoup de goût, qui n'a pas forcément beaucoup de couleur, contre une vieille variété de tomate plantée dans un jardin qui grandit naturellement. Vous goûtez les deux tomates, elles ont pas le même goût, elles n'ont pas les mêmes composés. Vous faites une sauce tomate avec l'une, il faut rajouter du sucre, du sel, des aromates pour faire une sauce, alors que l'autre, bah, vous pouvez juste la mettre avec un trait d'huile d'olive. C'est la même chose pour les raisins. Si vous avez des raisins qui sont faits de la même chose, il va falloir travailler un peu plus pour donner du goût, en fait, alors que d'autres ont naturellement les constituants nécessaires pour faire des fermentations et donner un breuvage qui va avoir plus de complexité naturelle. Et après, en cave, il y a toute cette question de comment est-ce qu'on va mener cette stabilisation. Les levures, les bactéries, il y en a des centaines, elles peuvent dévier, il peut y avoir des goûts, c'est un processus incroyablement complexe. Les fermentations alcooliques, on a compris ça dans les années 1860 avec Pasteur. Les fermentations malolactiques, c'est une autre transformation de l'acide du vin, on a compris ça juste dans les années 1960. On découvre de nouvelles interactions avec les levures, donc on est dans un monde qu'on continue de découvrir aujourd'hui et qui n'est pas facile pour nous à maîtriser. Donc, il y a des choix aujourd'hui qui nous permettent de choisir, le vigneron peut choisir comment est-ce qu'il veut conduire cette transformation incroyable qu'est la fermentation. On revient un peu au côté civilisationnel du vin, mais c'est quelque chose de très fort, cette fermentation, cette transformation de la vie à la mort, de stabilisation. Donc, il y a une symbolique très forte ici. Est-ce qu'elle se fait de manière conduite, en laissant faire les processus naturels sans intervenir, ou est-ce qu'on intervient en accélérant, ralentissant, stoppant, aidant ces processus naturels, et au final, quel produit obtient-on à la fin ? Et au fur et à mesure des années, j'ai pu vraiment goûter la différence entre des vins qui, sur l'étiquette, sont des vins, ont été approuvés, parce que le vin est un des produits agroalimentaires les plus contrôlés au monde, donc même tous les intrants qui sont dans les vins sont approuvés scientifiquement par vraiment des experts internationaux. Mais il y a quand même une différence entre des vins qui ont vu un certain nombre d'intrants sur une base de raisin, entre guillemets, faible, et des vins qui ont été laissés à l'expression des processus naturels. Et cette mythologie un petit peu d'un certain type de vin, avec cette idée que le vin peut incarner un terroir, c'est-à-dire un lieu géographique, un millésime, donc une année, et un artisanat, est très vrai, mais se ressent sans doute beaucoup plus lorsqu'il y a un vrai travail de viticulture, de respect de la plante, du biotope dans lequel la plante croît, des cycles saisonniers auxquels la plante et la vigne a été affectée durant le millésime en question, puis des processus qui se sont faits en cave. J'ai bien vu qu'il y avait une différence dans ces vins, que c'était une différence ressentie, et qu'il y avait une vraie réflexion aujourd'hui sur comment continuer cette culture de la vigne, qui est en fait une monoculture. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule plante qui croît dans un environnement, ce n'est pas une polyculture, et on sait aujourd'hui les problématiques du mono, de la monoculture en général, du manque de diversité, du manque d'interaction entre les espèces vivantes qui importent au niveau visible d'un champ agricole, d'une vigne, mais aussi au niveau souterrain. Et donc, beaucoup de personnes pensent que le vin vivant n'existe pas, que c'est pas un mot qu'on devrait utiliser parce que le vin c'est mort de toute façon parce qu'on a arrêté le processus, donc ça se dégrade. Mais en fait, je crois vraiment que c'est plutôt une image très importante en se disant le vin fait partie de ces produits agroalimentaires transformés où on peut vraiment ressentir le lien entre le travail agricole, le respect de cette plante dans un environnement où la plante n'est jamais seule. Jamais seule, c'est un titre d'un livre de Marc-André Sellos, vraiment quelqu'un d'exceptionnel pour la compréhension des questions dont on parle là. La plante n'est jamais seule, le vigneron n'est jamais seul. Ce n'est pas le vigneron qui fait le vin, ce sont les levures et les bactéries qui font le vin. Si demain il n'y a plus de levures, il n'y a pas de bactéries, on ne fait plus de vin, on ne fait plus de pain, on ne fait plus de fromage. Donc il faut vraiment une conscience que nous sommes un maillon d'une chaîne du vivant et que le vin peut être vraiment un produit agroalimentaire que l'on mange, que l'on apprécie, dont on parle, qui peut nous faire ressentir cette importance du lien de la terre au verre ou de la terre à l'assiette. Et voilà, c'est pour ces vins-là que je me bats, parce que lorsque vous les goûtez, vous avez cette sensation vraiment pour moi de vivre. Pour moi, qu'est-ce qu'un grand vin ? C'est un vin qui va vraiment me faire sentir vivante, en fait, qui va me faire apprécier intellectuellement, au sens du plaisir, mais aussi où mon corps va se retrouver dans une espèce de satisfaction.
Quand vous en buvez peu, hein.
Et quand je crache, et c'est la même chose avec les thés, c'est la même chose avec les cafés, je pense qu'il y a ces... Et il y a cette effectivement, l'alcool est secondaire dans cette question-là. C'est juste une plante transformée, une fermentation qui permet de ressentir cette chose, dans cette stabilité. Ce sont pour ces réflexions et les vignerons qui portent ces réflexions sur comment incarner ça, comment le cultiver, qui m'importe. Il y a des vins qui aujourd'hui sont très tendance, tout ce mouvement des vins naturels. C'est un mouvement qui a été extrêmement important pour faire comprendre les interactions du contrôle de ces phénomènes de vinification, de l'impact d'un certain type d'agriculture sur les sols. Qu'il y avait quelque chose là de problématique. Certains de ces vins, aujourd'hui, sont compliqués parce que justement, ces phénomènes fermentaires peuvent amener des déviances aromatiques, des instabilités. Mais il y a cette idée de revenir à une espèce d'humilité par rapport à la place que nous avons dans une nature environnante qui est beaucoup plus complexe et qu'il faut savoir respecter.
Et vous qui défendez l'idée, notamment dans votre ouvrage Mille Vignes, c'est très très évident qu'il faut connaître la vigne pour pouvoir apprécier un vin. Vous vous êtes pas dit, mais il va falloir que j'en fasse moi-même, que je mette la main dans la terre ou la main dans les feuilles, les raisins, pour pouvoir voir ce que c'est, de la théorie à la pratique.
Oui, bien sûr. Alors effectivement. C'est bien beau d'écrire, de parler, de philosopher sur le vin et pas forcément d'en faire. Alors j'ai eu la chance de faire plusieurs fois des vendanges. Enfin, j'ai passé autant de temps que je pouvais en fait dans la vigne. C'est plus compliqué depuis que je suis aux États-Unis. Mais j'ai effectivement, je participe à un projet viticole au nord de l'État de New York, dans la région des Finger Lakes. Donc on est quasiment à la frontière canadienne. Et c'est un projet que j'ai créé avec un ami vigneron qui est né dans les Finger Lakes, qui s'appelle Nathan Kendall. Et c'est lorsque je cherchais en fait un vin certifié en agriculture biologique pour mon restaurant à New York. New York, c'est très compliqué pour les vins faits de cette façon-là, parce qu'en fait, la quasi-totalité des maladies du vin à l'heure actuelle viennent du nord-est américain. Donc on est vraiment dans un milieu épidémiologique très compliqué pour la vitis vinifera, la vigne européenne. Et ce projet m'a permis, grâce à Nathan, de découvrir d'autres types de vignes, ce qu'on appelle des hybrides. Les hybrides, en fait, ce sont des croisements entre deux espèces. Donc la vigne que nous connaissons principalement, c'est la vigne européenne, c'est la vitis vinifera qui a été domestiquée depuis des millénaires pour faire du vin. Donc on est passé presque d'une vigne vierge à la vigne que nous connaissons aujourd'hui, avec des raisins, avec suffisamment de sucre et d'eau pour pouvoir vraiment faire du vin avec moins d'acidité. Mais aux États-Unis, en fait, il y a plein de vignes sauvages qui n'ont jamais été domestiquées, qui ont ces toutes petites baies. Vous essayez de faire du vin avec, c'est pas possible, ou très peu, parce que c'est très acide, c'est très amer. Il y a beaucoup de tanins, donc de l'astringence. Mais elles sont résistantes aux maladies. Donc ce qui s'est passé au fil des siècles, c'est que les colons qui sont venus aux États-Unis ont apporté les vignes européennes. Elles sont mortes rapidement à cause des maladies, ils n'ont pas trop compris au départ, mais ces vignes, quelques-unes ont survécu, elles se sont pollinisées avec les vignes américaines, et elles ont créé des hybrides qui ont pu résister et qui ont pu donner des raisins qui étaient capables de faire du vin, et ce depuis le début du 19e siècle. Et ça a vraiment essaimé sur le nord-est américain. Donc c'est des cépages que vous ne connaissez pas. Alors les cépages, c'est la variété de vigne. Hein. Vous connaissez sans doute le chenin, le chardonnay, le sauvignon, le cabernet. Bah, aux États-Unis, on en a d'autres. Et je travaille avec du Catawba, du Delaware, du Concorde. Et ce sont donc ces croisements qui ont été faits entre ces deux vignes et qui sont beaucoup plus résistantes aux maladies que nous connaissons. Donc chez Pica, c'est le projet que je porte, est un projet avec ces vignes hybrides qui sont en bio, il n'y a pas de traitement, et c'est un projet pour repenser en fait le biotope. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous pouvez que vous devez. Et dans le cas de la vigne, vous pouvez faire du vin aujourd'hui à peu près partout, mais est-ce que vous devez? Si c'est pour traiter la vigne 100 fois, pour devoir lui donner plein d'eau, pour vraiment la dénaturer d'une certaine manière, est-ce que c'est bien ou mal? À New York, on peut faire de la vigne avec ces vieux hybrides et on peut faire des vins avec du rendement qui ne coûtent pas trop cher et qui sont délicieux.
Vous êtes aujourd'hui, Pascaline Le Pelletier, reconnue non seulement parce que vous avez fait ce que vous avez fait, votre parcours il est celui qu'on a décrit pendant ces 5 entretiens, mais aussi précisément parce que vous avez remporté un certain nombre de prix, on a commencé par là. Malgré tout, est-ce que vous êtes comprise? Parce que je me dis, en vous écoutant, ça doit pas être facile quand même au quotidien aujourd'hui, aux États-Unis qui plus est, d'être dans le monde du vin en étant une femme philosophe, amatrice de vin nature ou de vin vivant. Sachant que vous êtes peut-être parfois prise aussi entre deux feux, des puristes qui disent que ces vins-là sont pas des vins, et puis d'autres puristes qui disent de toute façon je ne goûte que des vins nature parce que les vins conventionnels ça n'est pas des vins, alors que votre travail en salle, de servir les clients et de leur faire plaisir, c'est précisément de s'adapter à tout le monde.
Non, je pense qu'on est de plus en plus, en fait. Je suis pas seule, je suis loin d'être seule. Alors, je suis peut-être un petit peu plus... J'ai la chance d'avoir été un petit peu plus médiatisée grâce à mes concours qui m'ont permis d'avoir accès à des plateformes. J'ai aussi la chance d'avoir ce passé littéraire qui m'a permis d'écrire et de vouloir aussi parler. C'est-à-dire que j'ai beaucoup d'amis professionnels qui ne sont pas dans cette démarche nécessairement d'explications. Non, ce qu'on voit quand même, c'est qu'il y a une prise de conscience de la part des vignerons au départ, parce que ce sont eux qui sont quand même aux avant-gardes, hein, ils voient ce qui se passe dans la vigne, d'un nombre d'intermédiaires comme moi, c'est-à-dire des acheteurs, des distributeurs, des importateurs qui ont conscience, qui ont fait cette démarche. J'ai pu avoir les vins que j'avais aux États-Unis parce qu'il y avait des importateurs et des distributeurs qui avaient cru dans ces vignerons-là. Donc il y a toute une chaîne, et cette chaîne devient de plus en plus solide. Voilà, c'est petit à petit, on est de moins en moins seul, mais on se bat quand même, je pense, contre des mouvements extrêmement puissants et larges, notamment beaucoup plus largement agroalimentaires. Moi, je vous donnais juste un exemple aux États-Unis. Lorsqu'on avait la présidence Obama, Michelle Obama avait vraiment fait de l'alimentaire pour la jeunesse, quelque chose de très important. Il y avait vraiment des fonds, il y avait dans les écoles, avec mon ancien restaurant, il y avait vraiment, on a été voir des chefs pour vraiment, la nutrition était au cœur de cela. Et depuis, l'évolution politique a fait passer des lois qui permettent aujourd'hui une alimentation encore plus dérégularisée, avec des autorisations beaucoup plus larges sur certains produits. Et donc, on se bat vraiment contre tout ça. Et dans une économie qui est complexe, le moins cher aujourd'hui, c'est produire à moins cher, c'est fausses calories, c'est artifices du goût, ces artefacts du goût. Donc, on voit vraiment qu'en fait, on se bat beaucoup plus largement contre un système économique globale qui va loin de la préservation des sols, de la qualité de l'agroalimentaire, de la qualité des ingrédients que nous avons et de l'éducation par rapport à ça et du soutien des filières. Et dans une économie qui se resserre, parce qu'on le sait très bien, les tendances économiques actuelles qui sont difficiles, et on n'est pas encouragé à mettre du budget dans l'alimentaire. On est encouragé à mettre de l'argent dans un nouveau téléphone ou dans des choses qui, au final, coûtent très cher. Mais est-ce qu'elles sont aussi bonnes et utiles et nécessaires juste à notre bien-être? Je ne sais pas. Donc non, je pense qu'on est de plus en plus à y croire, de plus en plus convaincus, mais on est encore une minorité. Et je suis aujourd'hui vraiment... Je me sens quand même soutenue par une partie de mes pairs sans aucun problème. Et aux États-Unis, mais nous sommes malheureusement une minorité.
En 2019, Pascaline Le Pelletier, il y a eu un match en direct entre un algorithme et la chef sommelière du groupe de restaurants Anne-Sophie Pic, Paz Levinson. Et il se trouve qu'au terme de 3 épreuves, la machine est arrivée ex aequo. Elle a même battu la sommelière, qui est pourtant renommée, hein, sur une épreuve de création de cartes des vins. Alors, est-ce que vous aussi, vous pensez qu'à terme, dans pas longtemps, vous pouvez être concurrencé par une intelligence artificielle?
Les machines vont continuer à faire des progrès énormes sur la reconnaissance sensorielle, sur la combinatoire des molécules, sur aujourd'hui la reconnaissance même des vins, bon, sur certains critères très particuliers. Après, je ne sais pas quand une machine sera capable de lire l'humain comme nous faisons nous en salle, avec ses moments, ces interactions de face à face, une fois encore ce non-verbal, ce ressenti physique et physiologique, le frémissement d'une voix, l'impalpable, l'intuitif. Donc je pense qu'effectivement, une partie des professions de sélection, de rentabilisation, d'adaptation d'une cible clientèle X avec des données data, où on va vraiment savoir c'est tel profil de clients qui viennent dans votre restaurant et on sait que ces clients-là boivent ce type de vin, donc on va vous faire une carte des vins par rapport à ça, c'est déjà là, en fait. Mais par contre, le vrai moment social du manger et du boire dans une salle de restaurant où nous sommes en personne, je ne sais pas quand cet intuitif sera développé par la machine. Donc il va y avoir des bouleversements très forts dans mon industrie en général, sûrement dans un certain type de sélection de vins pour des structures particulières. Mais je crois vraiment, au contraire, que dans un monde qui va être de plus en plus digitalisé, le sensoriel et l'incarné va prendre de plus en plus d'importance. Et je fais partie d'un métier, si on le fait vraiment, comme vous l'avez dit, parce qu'on aime le client et parce qu'on est là pour le client, va être de plus en plus sincère parce que nous sommes dans l'incarné. Et ça va être un vrai contrepoids crucial dans un monde qui va devenir de plus en plus virtuel.
Eh bien, merci Pascaline Le Pelletier pour ces 5 entretiens.
Merci beaucoup.
C'était À Voix Nue avec Pascaline Le Pelletier, réalisation Yvon Croisier, chargé de programme À Voix Nue Daphné Abgral, une série de Caroline Brault est disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.